Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour écouter le monde changer, la France bouger, et elle se bouge, la France, en cette période de crise sanitaire. Vous faites évidemment preuve de solidarité envers les soignants, avec vos voisins, vos proches aussi, mais cela ne doit pas masquer certaines situations, parce que des inquiétudes remontent jusqu'à nous pendant cette période de confinement, et on a choisi de les évoquer ensemble pour que ça ne reste pas justement dans le non-dit. Comme chaque jour, pour nous éclairer, elle est là, c'est Elisabeth Assayag en télétravail. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Vous allez bien Raphaël aujourd'hui ?
Je vais bien, je vais très bien. Je suis ravie d'être avec vous. Et je suis ravie aussi d'accueillir Serge Effèze, psychiatre, psychanalyste à la Pitié-Salpêtrière et à l'hôpital Sainte-Anne. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous allez nous accompagner jusqu'à 14h pour nous aider à répondre aux questions des auditeurs et aux témoignages que nous recevrons, si nous en recevons évidemment. Vous êtes nombreux à nous avoir alertés sur les risques de cette situation de confinement, pour parler clair, les risques pour ceux qui se retrouvent enfermés avec leur agresseur. Nous sommes en ligne avec Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Bonjour Adrien Taquet.
Bonjour à vous.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez mis en place une note, justement, pour la prise en charge des enfants. Vous avez eu, vous, des alertes qui sont remontées également jusqu'au ministère ?
Écoutez, il est clair que d'avoir fermé les écoles, qui était une nécessité, un impératif d'un point de vue de santé publique, peut conduire à ce que certains enfants soient renvoyés dans un environnement familial qui est maltraitant. Par ailleurs, on sait que l'école est souvent le premier pourvoyeur d'informations préoccupantes. Ce sont souvent les profs, les CPE, les directeurs qui signalent des situations de maltraitance. Et en l'absence d'école, on sait que voilà, ce canal de signalement de maltraitance disparaît. Donc il y a effectivement une vigilance importante à avoir parce qu'il y a des risques de maltraitance dans le cercle intra-familial.
Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place une plateforme citoyenne.
Pardon, ça a coupé.
Je demandais si c'était la raison pour laquelle vous avez justement mis en place une plateforme citoyenne pour que justement ces remontées puissent se faire ailleurs que dans le cadre de l'école.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'une part s'assurer que tous les outils d'alerte soient opérationnels. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler le 119, ce numéro de l'enfance en danger. Le 119, nous avons lancé un plan de continuité d'activité. Ce numéro dont je rappelle qu'il est gratuit et qu'il est anonyme puisqu'il n'apparaît pas sur les factures téléphoniques est disponible 24 heures sur 24.
Ils seront en ligne avec nous dans quelques instants d'ailleurs.
7 jours sur 7. Nous avons d'ailleurs relancé une campagne de communication à l'attention des Français sur le 119. Et puis je crois qu'il faut que chacun d'entre nous, vous, moi, soyons vigilants, que nous soyons un peu plus attentifs qu'à l'accoutumée face à des suspicions de maltraitance. Voilà, écoutez un peu ce qui se passe, ne pas hésiter quand on a un doute à aller frapper à la porte du voisin pour savoir si tout va bien en respectant les distances de sécurité. Mais ça permet parfois de faire redescendre la pression et puis ne pas hésiter à appeler une fois encore le 119 quand on est face à un doute.
Adrien Taquet, vous avez adressé un courrier aussi aux élus, je crois, des départements pour qu'ils maintiennent justement des cellules de veille pour signaler tout ce qui était situation préoccupante.
Absolument, c'est une fois encore toute la continuité des outils d'alerte qui existent en temps normal. Donc c'est le 119, ce sont les cellules de recueil des informations préoccupantes, c'est ça auquel vous faites référence, qui dépendent des départements. Et puis c'est aussi la justice, la ministre de la Justice a identifié les juges des enfants et la possibilité de placer en urgence des enfants qui seraient victimes de maltraitance comme les priorités, comme des choses qui doivent évidemment faire l'objet d'une continuité de service. Et puis je pense qu'il y a tout un volet prévention aussi, si vous me le permettez. Je pense qu'on doit donner aussi aux parents des outils pour faire face à des situations dont on sait qu'elles peuvent être un peu compliquées. Rester dans des espaces confinés, pas très grands, en famille toute la journée pendant une période de confinement dont on sent qu'elle risque de se prolonger, ça peut conduire à des périodes de tension, de crispation au sein de la famille. Et là, il est absolument important de rompre l'isolement pour les familles. Il ne faut pas hésiter à appeler une amie, à appeler de la famille quand on est en difficulté dans sa relation avec ses enfants. Et puis par ailleurs, on a aussi mis, le gouvernement a lancé hier, vous l'avez peut-être entendu, un numéro vert d'écoute psychologique qui est à l'attention de tous nos concitoyens, parce qu'on sent bien que les effets psychologiques de cette période vont être conséquents pour chacun d'entre nous, mais aussi pour les parents. Ce numéro, c'est le 0800 130 000, donc 0800 130 3x0. Et là, voilà, quand on a des difficultés, il ne faut pas hésiter à l'appeler. Vous aurez une écoute, vous avez des psychologues, des psychiatres qui, en fonction des problématiques que vous rencontrez, pourront vous écouter, vous donner des conseils et vous réorienter si c'est nécessaire.
Oui, c'est important effectivement de pouvoir parler. Encore faut-il pouvoir parler. Elisabeth, je voudrais qu'on rappelle tout simplement les chiffres qui font froid dans le dos des violences commises contre les enfants en France.
D'abord, il faut savoir que 80% des violences contre les enfants sont commises au sein des familles. Donc là, on est en plein dedans dans cette période de confinement. Et chaque jour, ce sont 200 enfants qui sont victimes de violences en France. Et là, on est face à un huis clos qui est en train de se jouer au moment où on parle pour des centaines d'enfants. Des risques de violence qui risquent de s'amplifier et les associations sont unanimes. D'autant plus qu'en étant confinés, il peut y avoir encore plus de situations d'énervement et ce sont très souvent les enfants qui vont subir les conséquences face à des parents maltraitants. Adrien Taquet, je voulais vous demander, hormis le 119, des associations disent que des commissariats ne prennent plus en ce moment les plaintes. Est-ce que c'est le cas ?
Ah, écoutez, moi je n'ai eu aucune remontée de cet ordre-là. C'est quelque chose qui ne serait pas admissible si tel était le cas, donc on va se renseigner. Je ne vois pas en plus qui pourrait justifier que de tels comportements de cette nature aient lieu. Et une fois encore, le numéro, le 119, est le point d'entrée de l'enfance en danger quand il y a une maltraitance sur enfant. Le 119 et les associations que vous citiez, je pense à l'Enfant Bleu, à la Voix de l'Enfant, à Enfance et Partage, qui ont également mis en place des lignes d'écoute et que l'on peut appeler, qui peuvent accompagner des maltraitances ou des parents en difficulté.
Et on va d'ailleurs détailler avec elles, puisqu'elles seront avec nous jusqu'à 14h dans cette émission pour parler justement de ces dispositifs. Vous dites appeler, Serge Eiffes, je me tourne vers vous, appeler, encore faut-il pouvoir parler. La difficulté de la parole libérée quand on est dans une situation de huis clos, c'est aussi un véritable problème.
Ah oui, ça c'est même un des plus grands problèmes, c'est que même cette liberté effectivement de téléphoner et de pouvoir s'adresser à quelqu'un en toute confidentialité, quand on habite un petit appartement avec un conjoint violent ou dans des situations de maltraitance, c'est très difficile. Hein. Il faut s'enfermer dans une salle de bain, dans des toilettes pour réussir à téléphoner. Hein. C'est évidemment des situations qui sont très préoccupantes, mais je me réjouis d'apprendre qu'il y a un numéro vert qui a été attribué maintenant à la situation de détresse psychologique liée à l'épidémie, sans parler même des violences, mais toute cette situation de détresse psychologique par cette situation d'épidémie, et il faut vraiment inciter les gens le plus possible, quand ils le peuvent, à s'adresser à lui.
Il faut aussi prévoir, je suppose, Adrien Taquet, un dispositif pour que les interventions de protection de l'enfance continuent à être assurées. Ça, c'est quelque chose qui est d'ores et déjà anticipé.
Alors c'est un deuxième volet effectivement très conséquent de l'attention que nous portons, c'est toute l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire les enfants qui sont d'ores et déjà protégés au sein de notre dispositif institutionnel d'aide sociale à l'enfance. Ce sont près de 340 000 enfants aujourd'hui, vous en avez la moitié qui sont protégés mais qui restent dans leur famille, mais ce sont des travailleurs sociaux qui viennent intervenir chez eux, et là on se retrouve confronté à peu près les mêmes problématiques que celles que nous sommes en train d'évoquer. Puis vous avez l'autre moitié qui sont dans des foyers ou dans des familles d'accueil, et qui là aussi n'ont plus d'école, et se retrouvent, n'ont plus d'activité extrascolaire, et se retrouvent aussi les uns avec les autres, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là aussi, beaucoup de mesures prises, notamment pour permettre aux travailleurs sociaux de pouvoir venir encadrer ces enfants. Il y avait toute une problématique autour de la garde de leurs propres enfants, c'est-à-dire la possibilité pour les enfants des travailleurs sociaux d'accéder à l'école. C'est quelque chose que nous avons réussi à résoudre, parce qu'il y avait effectivement des taux d'absentéisme qui commençaient à être élevés la semaine dernière. Mais ça fait l'objet d'une grande attention, évidemment, de notre part.
On a une question qui nous est parvenue, Elisabeth, sur le hashtag Radio Ouverte.
Oui, il y a Olivier Sarrazin qui nous dit, qui vous demande, Adrien Taquet, la préfecture de l'Aisne qui avait annoncé l'interdiction de la vente d'alcool pour lutter contre les violences intrafamiliales fait marche arrière, apparemment. Et il demande pourquoi.
Écoutez, je crois que ça a été, de ce que j'en ai compris, il y a eu des échanges avec le ministère de l'Intérieur et de l'Économie hier, je crois que ça a été une initiative qui a été isolée de la part de la préfecture. On sait que l'alcool est effectivement un des facteurs qui peut être aggravant des passages à l'acte concernant les violences sur enfants, mais aussi évidemment sur les violences conjugales.
Bien sûr.
Il n'est pas évident qu'un sevrage comme ça soit aussi la meilleure façon forcément d'empêcher ce genre de passage à l'acte. Donc je pense qu'il y a la nécessité d'avoir une réflexion un peu plus approfondie, je le crois, sauf erreur que Marlène Schiappa a effectué cette demande avant d'adopter ce genre de décision.
Si je peux permettre d'intervenir, effectivement, ça me paraît contre-productif d'interdire comme ça l'alcool dans un département, une région ou une ville. Bien évidemment, c'est pas le moment de se sevrer là. C'est un moment d'angoisse et d'anxiété particulière. On peut pas obliger les gens en plus à faire un sevrage de tabac, un sevrage d'alcool ou un sevrage de cannabis. Je dirais que les méfaits d'un sevrage brutal chez un alcoolique violent risque d'être encore plus violent.
C'est contre-productif. Par exemple, en Autriche, quand la police constate un problème, elle peut interdire immédiatement à l'homme d'entrer à nouveau en contact avec sa famille pendant 15 jours. Et le problème, c'est que là, en France, la procédure est plus lourde, mais peut-être faudrait-il tenter de modifier, là, puisqu'on est dans un état particulier avec ce confinement. Donc, ne pas interdire l'alcool pour ceux qui en ont besoin, mais peut-être rester éloigné de la famille. Ce serait possible ?
Adrien Taquet, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé ?
Ça a coupé sur le début.
On est tous confinés, on suit les règles comme vous, et on fait au mieux. Donc, on posait la question par rapport à ce que fait l'Autriche.
Oui, tout à fait. En Autriche, la police, quand il y a un problème comme ça majeur au sein d'une famille, elle peut interdire immédiatement à l'homme d'entrer à nouveau en contact avec la famille pendant 15 jours. Donc, effectivement, comme disait Serge Fez, c'est impossible d'arrêter de boire si on boit énormément, surtout en ce moment dans cette période d'anxiété. Mais est-ce que ce serait envisageable d'éloigner le bourreau, j'ai envie de dire ?
Il y a déjà des dispositifs d'éloignement des bourreaux, comme vous dites, qui existent en temps normal. Ça a été tout l'objet, notamment, ça a été un objet central de...
Oui, on a effectivement des difficultés de liaison, hein, je crois. Merci Adrien Taquet. Vous pouvez rester si vous le souhaitez, puisque cette émission est consacrée à la maltraitance envers les enfants et aux violences intraconjugales. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez jusqu'à 14h. On va continuer à recevoir nos invités sur Europe 1.
Europe 1.
La maltraitance des enfants, c'est aussi en cette période de huis clos l'apparition de comportements qui doivent être signalés, d'où, vous allez le voir et l'entendre, le rôle majeur des associations. À tout de suite.
La France bouge. Raphaël Duchemin.
Oui, la France bouge, la France se mobilise aussi, hein, vous connaissez tous, et on vient d'en parler d'ailleurs, le numéro, le 119, il est à la disposition des enfants qui souffrent, qui veulent dénoncer un comportement de maltraitance ou des violences subies par eux-mêmes ou par d'autres enfants d'ailleurs dans la famille. Bonjour Pascal Vigneron.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. On parlait effectivement avec Adrien Taquet de ce 119 dont vous êtes le directeur, Service National d'Accueil Téléphonique de l'Enfant en Danger. Est-ce que le 119 s'est adapté justement pendant cette situation de confinement ?
Bien entendu que le 119 s'est adapté, comme tout un chacun, l'ensemble de l'équipe est en télétravail actuellement. Nous avons réussi à mobiliser plus de 70% de notre équipe qui a en charge le recueil de l'ensemble des appels téléphoniques. Donc il y a une grosse mobilisation de l'ensemble des professionnels, et je voulais ressouvenir rapidement ce que disait Adrien Taquet dernièrement sur le Facebook Live, un engagement énorme de l'ensemble des équipes de protection de l'enfance qui nous permet aujourd'hui effectivement d'assurer un plan de continuité du service à hauteur de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Oui, alors vous dites il y a plusieurs priorités. Moi, j'en ai noté une qui m'a interpellée. Oui. C'est ces parents qui n'en peuvent plus et qui ont peur de passer à l'acte. Oui. Vous dites on a eu énormément de cas dans les premiers jours.
Tout à fait. Alors, soit ça a été soulevé effectivement par des mineurs qui nous ont appelés, ne supportant plus effectivement la situation familiale avec des parents qui vivaient très très mal le confinement. Alors, c'est vrai que toutes les familles qui sont dans une certaine précarité, je dirais en termes logistiques, mais précarité aussi sociale, le fait du confinement, déjà pour tout un chacun, c'est compliqué. Là, effectivement, ça vient exacerber toutes les tensions familiales qu'il puisse y avoir. Et mineurs ou parents nous appellent effectivement pour trouver des solutions sur un équilibre quotidien finalement qu'ils peuvent trouver. Mais malheureusement, effectivement, on est confronté aussi à des situations qui sont urgentes à traiter. Et c'est pour ça que l'ensemble des cadres sont en lien permanent avec l'ensemble des cellules de recueil d'informations préoccupantes sur les départements pour qu'on puisse trouver des solutions pour pouvoir interagir. Les départements sont, comme tout un chacun également, effectivement en difficulté pour pouvoir répondre notamment aux situations les moins urgentes. Et il faut qu'on puisse prioriser avec eux les situations.
Oui, prioriser les situations. Vous dites malgré tout on a moins d'appels, même si on n'a pas de chiffres finalement pour l'instant.
Alors on a moins d'appels, mais ça y est, les chiffres arrivent. On a eu moins d'appels effectivement sur les 40 premières heures. Aujourd'hui, on a rééquilibré et on a autant d'appels que finalement toute l'année. C'est-à-dire que là, on est aux environs de 700 appels par jour.
700 appels par jour. Et vous dites les ados angoissent avec la violence et la pression familiale. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Finalement, ils n'ont pas l'habitude d'être confinés. Ça exacerbe des tensions.
Ça exacerbe des tensions. Hein. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure, et Adrien Taquet le soulevait également, les camarades nous appellent. Les camarades et aussi l'environnement familial qui s'interroge effectivement sur les conditions de vie des enfants. Le fait du confinement fait que une situation qui était, je dirais, précaire tenait, parce qu'effectivement, il y avait des soupapes, il y avait un lien social, il y avait l'école, il y avait d'autres, il y avait les associations qui pouvaient intervenir. Associations, j'entends, associations sportives et autres, hein, pour que les enfants puissent vivre en dehors du milieu familial. Le fait du confinement, on se rend compte qu'effectivement, la famille élargie, les parents, les enfants, les camarades s'interrogent sur ce que peut vivre justement le petit camarade. Et du coup, nous interpelle. Et ça, c'est quelque chose qui est exponentiel en ce moment.
Serge Effès, vous êtes toujours en ligne avec nous. On voit aussi des gens qui, de par la situation, finalement, passent à l'acte violent alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Ce confinement peut avoir des conséquences inattendues.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en dehors de ces situations de violence conjugale qu'on connaît depuis toujours et qui sont ravivées par ces situations de confinement, il y a effectivement une violence ordinaire qui monte dans les relations et surtout dans les relations conjugales du fait même du confinement. C'est-à-dire et chez des couples et des hommes et des femmes qui jusque-là avaient peut-être des petites scènes de ménage de temps en temps, mais pas à ce point-là, parce que la situation de confinement crée quasiment une situation de persécution réciproque. C'est-à-dire que il y a une telle intrusion de l'autre dans votre vie, dans votre psychisme, dans votre territoire, qu'il en devient étouffant et que les mécanismes de régulation habituels de la relation, où on rentre, on sort, on prend de la distance, on se retrouve, etc., qui permettent justement à la relation d'être vivante, de ne pas être trop étouffante.
D'avoir des soupapes, finalement.
D'avoir des soupapes, exactement. Là, ça n'existe plus. Donc, ça veut dire que chacun est beaucoup plus enfermé dans son rôle à l'intérieur du couple et dans ce qui, dans ce rôle-là, devient persécutant par l'autre. J'ai beaucoup d'hommes qui me disent, par exemple, mais ma femme prend les commandes tout à la maison, c'est insupportable, j'ai l'impression qu'elle me traite comme un enfant, par exemple. Vous voyez, et du coup, la violence monte.
C'est une situation qui se répercute aussi, évidemment, pour le reste de la famille,
enfants,
y compris pour les enfants.
Évidemment.
Alors, vous restez en ligne avec nous. Elisabeth, est-ce que le confinement perturbe aussi les enfants qui sont placés, qui sont déjà dans des services sociaux, par exemple, aussi?
Complètement, et c'est ce que dénonce déjà une partie des travailleurs sociaux et des associations, parce que les éducateurs, elles disent qu'ils sont en sous-effectif. Il y a des violences qui sont de plus en plus difficiles à gérer, c'est ce que disent certains membres de l'association, notamment SOS Enfants Placés. Donc là aussi, il faut être attentif au sort de ces enfants qui sont déjà placés et confinés au sein de l'aide sociale à l'enfance.
Oui, on voit que les numéros, hein, comme le 119, mais aussi le rôle des associations est véritablement essentiel, y compris et peut-être plus que jamais dans ces périodes. Bonjour Isabelle Debray.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes la présidente de l'association L'Enfant Bleu. Est-ce que vous êtes, de votre côté, réorganisé? Est-ce que vous faites un travail particulier pendant cette période de confinement?
Oui, bien sûr, nous nous sommes réorganisés, nous sommes tous confinés, comme tout le monde, mais nos psychologues, nos juristes, nos permanents sont à l'écoute. Nous sommes totalement complémentaires du 119, il faut le savoir. Le 119 reçoit les appels et nous essayons ensuite, dans la mesure du possible, de suivre individuellement chaque personne. Je crois que c'est important que les enfants se sentent écoutés, entendus, soutenus, accompagnés, et c'est le rôle de l'association L'Enfant Bleu en cette période qui est particulièrement difficile. Donc nous continuons à suivre bien sûr les enfants.
Vous dites aussi, et on l'a évoqué plus que jamais avec cette période de confinement, le voisinage a un rôle essentiel. Ce que l'on entend finalement doit être absolument signalé.
Ah mais absolument, absolument. On compte véritablement sur, bien sûr, la famille en général, mais même les voisins. Il faut que les gens puissent signaler un cas de maltraitance chez eux. C'est non-assistance à enfants en danger s'ils ne parlent pas. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et nous sommes vraiment très heureux de voir que Adrien Taquet a mis en place, et le gouvernement a mis en place, un numéro d'appel d'urgence, je crois le 0800 130 000. Je crois que c'est très important qu'ils puissent signaler. Et encore une fois, si vous avez un doute, quel que soit votre doute, appelez le 119, appelez, signalez les cas, c'est très important.
Elisabeth, vous aviez une question sur le rôle des tribunaux aussi, hein.
Oui, tout à fait. Je voulais vous demander si des permanences vont-elles continuer à être assurées sur ce sujet précis dans les tribunaux en ce moment, parce que ils sont un peu, ça tourne au ralenti, évidemment.
Non, non, bien sûr. J'entendais tout à l'heure que la police ne prenait pas les plaintes. Moi, je n'ai pas ce
retour. Certaines associations, pas toutes, certaines associations ont signalé que certains commissariats, alors il faudrait effectivement pouvoir remonter ça plus précisément, ne prenaient plus de plaintes. Mais concernant les tribunaux.
Alors les tribunaux, c'est la même chose. Notre juriste, nous, et bien évidemment, il y a des permanences. Notre juriste est là, bien évidemment, en télétravail, en visioconférence, mais les permanences existent aussi au sein des tribunaux. Hein. Tout n'est pas, heureusement, totalement à l'arrêt. Il y a encore des personnes qui travaillent, il y a des permanences, bien évidemment.
C'est bien de le signaler, parce que comme voilà, c'est le confinement pour tout le monde, on peut aussi se dire, bon, ben, finalement, là aussi, j'ai pas d'issue. Donc c'est bon de le savoir, c'est bien de le préciser.
Bien sûr.
Vous restez en ligne avec nous et on va marquer une pause, si vous le voulez bien, sur Europe 1. On est tous, c'est vrai, en ce moment concentrés sur les questions de santé avec la crise du coronavirus, mais il ne faut pas que cela nous fasse oublier des situations qui peuvent s'avérer dangereuses. Nous sommes toujours en ligne avec Isabelle Debré. Isabelle Debré, vous nous disiez qu'il fallait finalement être vigilant, peut-être encore plus que d'habitude, hein, aux situations qui peut-être nous échappent dans notre quotidien. Mais là, il faut vraiment une vigilance accrue de chacun.
Absolument. Il faut que chacun soit à l'écoute, qu'il y ait une solidarité, que chacun soit à l'écoute de son voisin, une écoute bienveillante, bien évidemment. Mais si nous sommes témoins, ou si quelqu'un est témoin, ou a même un doute de maltraitance, n'hésitez pas à le signaler. Alors, vous pouvez appeler, bien sûr, le 119. Vous pouvez appeler aussi, bien évidemment, la police secours s'il y avait un cas d'extrême, extrême urgence. Donc, le 17, en cas d'extrême urgence. Vous pouvez appeler l'association, le 01 56 56 62. 62. Notre permanence est ouverte, donc vous pouvez tout à fait appeler l'Enfant Bleu et vous pouvez bien évidemment être sûr qu'il y aura une réponse, qu'elle soit un accompagnement thérapeutique, un accompagnement juridique. Nous serons là et nous sommes là même en cette période de confinement.
Merci beaucoup Isabelle Debré d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on accueille ensemble Latifa Benhari, qui est la présidente de l'association L'Ange Bleu, qui œuvre aussi pour les enfants. Bonjour Latifa.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous sur Europe 1. Vous nous dites que vous commencez à recevoir des appels très inquiétants qui sont directement liés à cette situation de confinement.
Oui, bien sûr. Alors, le confinement ne m'empêche pas de travailler. D'ailleurs, l'ampleur est édifiante des appels téléphoniques. Plusieurs jeunes adolescents de 11 ans et 16 ans ou leurs parents désœuvrés m'ont contacté cette semaine pour savoir comment faire face à ces cyberprédateurs dont ils sont victimes. Donc voilà, c'est vrai qu'on cherche à éviter, et c'est tout à fait normal, les conditions actuelles sont indispensables, la propagation de coronavirus et par conséquent le nombre de personnes contaminées. Cependant, les difficultés liées à cet espace limité, source d'irritabilité, peuvent générer des tensions et l'impact peut être multiple.
Oui, vous dites notre hotline travaille beaucoup et vous entendez beaucoup de grands frères, hein, qui deviennent fou, ce sont les mots que vous nous avez relayés, parce que la pornographie explose et qu'il y a de plus en plus de permissivité dans ce cadre de confinement.
Oui, c'est vrai qu'il y a un contrôle. Il y a des parents, en règle générale, quand on vit normalement, il y a aussi l'école, il y a des activités qui permettent aux enfants de s'évader. Mais là, le problème, c'est que l'échappatoire premier, c'est le monde virtuel. Et le monde virtuel, gardons à l'esprit que les risques sont déjà identifiés depuis toujours sur le web, pornographie, pédopornographie, relations virtuelles, sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres.
Ça veut dire que les parents ont relâché la surveillance parce qu'ils sont par exemple en télétravail et que les ados en profitent pour aller consommer de la pornographie ou de la pédopornographie, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui ?
Télétravail ou bien manque d'activité, parce que c'est vrai que lorsqu'on a un jardin, on a de l'espace, on peut occuper les enfants, mais autrement, les enfants sont encore plus exposés durant cette période de confinement. Si le contact physique entre individus est limité, voire aboli, dans un nombre croissant de pays, la propagation de ce virus, il n'en demeure pas moins que cette situation exceptionnelle peut avoir comme répercussion de faciliter les contacts à distance virtuels, relations virtuelles à risque.
Ouais, je voudrais qu'on donne la parole sur ce sujet à Serge Effez qui est toujours avec nous. Serge Effez, c'est un problème supplémentaire finalement auquel on n'avait peut-être pas pensé.
Oui, bien évidemment. Alors, c'est vrai qu'il est amoindri par le fait qu'en étant les uns avec les autres et les uns sur les autres, même les parents contrôlent un petit peu plus que leurs enfants et leurs adolescents regardent sur Internet. Et je les appelle d'ailleurs vraiment à la vigilance par rapport à ça. Il faut savoir que les plateformes pornographiques ont rendu leur site gratuit, par exemple, pendant les périodes de confinement. C'est très très malin de leur part, on peut dire, et que effectivement ça va inciter encore beaucoup plus d'enfants et d'adolescents de s'y connecter. J'entendais parler aussi du mot cyberprédateur. Bien évidemment, il y a une multiplication des contacts sur les réseaux sociaux par tous ces jeunes qui vont être en contact avec on ne sait pas qui. Donc ça demande vraiment une vigilance extrêmement accrue et parfois une vigilance que des parents qui eux-mêmes sont très angoissés par la situation, pris dans un télétravail, n'arrivent pas forcément à exercer.
Elisabeth, il faut dire aussi peut-être qu'on peut continuer à quitter les lieux hein, quand Mais on est ça, hein. en situation de harcèlement.
Il ne faut pas hésiter à fuir quand il y a un problème aussi grave, même en situation de confinement. Ça, c'est quelque chose que on peut avoir tendance à oublier parce que là, en ce moment, il faut rester à la maison et ne pas sortir. Mais oui, on a le droit de fuir quand il y a un danger qui est en train de se produire. Donc, il faut vraiment le garder en tête.
Alors la maltraitance des enfants, on vient de le voir, est un véritable sujet. Ça n'est évidemment pas le seul. Bonjour Caroline De Haas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour Nous Toutes, hein, l'association Nous Toutes. Vous dites attention, le confinement c'est aussi pour certains d'entre nous être enfermé avec le conjoint violent. Vous craignez justement de voir des situations dégénérer, des gens finalement se révéler?
Alors, toutes les périodes de crise, que ce soit des crises dans la vie individuelle ou les crises collectives comme celles qu'on est en train de vivre en ce moment, sont des périodes d'augmentation des violences. Donc moi, je ne crains pas l'augmentation des violences. Elle va arriver, c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'on peut faire résultat ? On peut à la fois chacun, chacune agir et réagir en cas de violence, notamment de violence grave, en appelant le 17. Et puis on peut, lorsqu'on est le gouvernement, prévenir ces violences. C'est ce qui a été fait en Espagne avec une grande campagne de prévention en période de confinement sur les violences au sein du couple et avec des dispositifs renforcés pour accompagner les femmes victimes.
Vous dites oui, qu'il y a eu ces campagnes. Vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Je crois qu'il y a des groupes WhatsApp que vous avez mis en place justement pendant cette période de confinement.
Il y a deux choses différentes en fait. Il y a dans les familles où il n'y a pas de violence, le risque de pétage de plomb, notamment avec les enfants. Et donc on a mis en place des groupes qu'on appelle confinement et parentalité, qui visent chaque jour à envoyer deux messages pour soutenir les parents et leur donner des trucs et astuces pour occuper les enfants. Donc ça, c'est pour vraiment faire redescendre la pression et éviter les pétages de plomb, parce qu'on sait que quand on crie sur les enfants, quand on leur parle mal, en fait, ça peut avoir des conséquences sur eux, et parfois des conséquences importantes. Et puis, la deuxième chose, c'est dans les espaces où il y a de la violence, que ce soit de la violence verbale, physique ou sexuelle, donner des informations aux femmes pour, comme le disait, comme c'était dit très justement avant, qu'elles sachent qu'elles ont le droit de fuir. Il existe, même en période de confinement, des outils pour se protéger des violences. On peut d'abord fuir un endroit où il y a de la violence, même s'il n'est pas autorisé de sortir. En fait, cette autorisation ne tient pas, en tout cas cette obligation de confinement ne tient pas si on est en danger, donc on a le droit de fuir. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un outil qui s'appelle l'ordonnance de protection, oui, qui est délivré par les juges aux affaires familiales, qui permet de protéger des femmes victimes de violences. Cette ordonnance de protection est valable pendant un confinement. Donc si une femme est en danger, elle peut demander, solliciter une ordonnance de protection et les policiers, les gendarmes feront en sorte que monsieur aille se confiner ailleurs.
Vous avez aussi, et c'est peut-être important de le signaler, envie de lancer une pétition à destination du gouvernement parce que vous dites aujourd'hui avec cette situation, il faut un plan d'urgence.
Oui, on s'est rendu compte qu'il y a un pays en fait qui a tout de suite, dès le début de la crise sanitaire, mis en place des dispositifs spécifiques sur la question des violences. Et ce pays, c'est l'Espagne. C'est un pays qui, en général, est assez en avance hein, sur le reste des pays du monde, sur la question des violences. Et là encore, ça se vérifie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renforcé les dispositifs existants, notamment le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences. Nous, en France, on a réduit l'amplitude horaire du numéro de téléphone. Donc le 3919, qui est un numéro gratuit, il est ouvert aujourd'hui que jusqu'à 18h, alors qu'avant c'était 22h. Il n'est même pas ouvert 24h sur 24 ou le week-end. Et puis la deuxième chose qu'a fait l'Espagne, que moi je trouve très intéressante, c'est de créer un dispositif spécifique. C'est-à-dire que les femmes qui sont en danger, elles peuvent envoyer un SMS à un numéro et ça les géolocalise directement par la police.
Oui, parce que la difficulté, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai aussi pour les conjoints qui subissent des violences, c'est tout simplement de pouvoir parler, hein, prendre le téléphone, décrocher et s'exprimer, avoir quelqu'un au bout du fil. Finalement, le SMS, c'est quelque chose de plus discret, de plus pratique aussi.
Tout à fait. Alors, il y a le SMS et puis on peut utiliser d'autres outils, comme par exemple, ça va paraître un peu décalé, mais l'application Scrabble, l'application de jeu hein, pour jouer au Scrabble. En fait, c'est une application dans laquelle il y a un chat. Et donc, vous pouvez, si vous connaissez quelqu'un qui est en danger, lui proposer de télécharger cette application et discuter avec elle via Scrabble, plutôt que de discuter avec elle par WhatsApp ou par SMS, ce qui est plus facile, entre guillemets, pour le conjoint d'aller vérifier, quoi.
Vous pouvez continuer évidemment à nous appeler 39 21 pour être à l'antenne avec nous si vous avez été témoin d'une situation dangereuse ou si vous avez vous-même envie de témoigner, vous pouvez le faire, hein, l'antenne est ouverte et Serge Effez est toujours avec nous pour vous répondre et puis on attend aussi vos messages sur le hashtag Radio Ouverte, n'hésitez pas. Elisabeth, ce qui pourrait peut-être être une solution aussi, en tout cas certaines associations le demandent, c'est que les conjoints violents soient confinés à part. Est-ce que
oui,
c'est possible?
Des voix s'élèvent sur ce point pour que les conjoints violents puissent être mis à l'écart. Par exemple, la Fédération nationale Solidarité Femmes demande au gouvernement de prendre par ordonnance des mesures pour que le conjoint violent soit confiné ailleurs. Donc, ça peut être une la procédure est peut-être un peu plus lourde, mais ça pourrait être une solution. Et Adrien Taquet justement tout à l'heure nous expliquait que ça commençait déjà à être le cas déjà bien avant d'éloigner le bourreau des enfants de sa conjointe.
Et puis il y a aussi tous les appels de la part des colleuses notamment.
Oui, les colleuses, même si en ce moment elles ne peuvent pas sortir collées dans la rue, elles souhaitent coller des messages d'alerte sur les fenêtres. Elles le disent, les violences, ce n'est pas privé, ce n'est pas quelque chose d'intime. Les voisins doivent alerter, elles doivent signaler la situation aux autorités. C'est absolument essentiel et elles demandent l'ouverture en ce moment de places supplémentaires dans les centres d'accueil dédiés aux victimes de violences conjugales. Et s'il n'y a pas de place, eh bien pourquoi pas la possibilité de demander aux hôtels d'accueillir des femmes en cette période de confinement. Pourquoi pas?
Merci Elisabeth pour ces précisions. Merci à Caroline Dehas d'avoir été avec nous. Et merci aussi évidemment à Latifa Benari, hein, présidente de l'association L'Ange Bleu. Il est 13h43.
Europe 1.
On reste ensemble sur Europe 1. On attend toujours vos appels, bien sûr, 3921 et Twitter, hashtag Radio Ouverte. Comment gérer le confinement quand on est enfermé avec son conjoint violent? Les associations sont à l'écoute, y compris pendant la crise sanitaire. Europe 1 aussi. Libérer la parole des femmes qui sont battues par leur conjoint n'est pas simple. Hein. Elle l'est encore moins quand on est enfermé avec la personne qui maltraite. Bonjour Louise Delavier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la responsable du projet chat de l'association En Avant Toutes. Ça fait 4 ans que ce chat existe. Il permet évidemment d'être en direct. On parlait du Scrabble tout à l'heure. Qu'est-ce que vous relevez depuis que le confinement a commencé?
Alors nous, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui nous contactent parlent pratiquement toutes de la question du confinement. On voit que c'est un moment où les violences s'aggravent, où les violences se prolongent. C'est pas forcément un moment où les violences naissent, mais c'est un moment particulièrement anxiogène pour les victimes qui ont vraiment du mal à savoir quoi faire, notamment parce que aussi les femmes ont tendance à bien respecter aussi les règles qu'on nous donne pour endiguer l'épidémie, et donc elles se sentent très démunies, elles ne savent pas vraiment quoi faire.
Donc qu'est-ce que vous pouvez leur dire et comment est-ce qu'on peut les rassurer si elles nous écoutent par exemple aujourd'hui ?
Alors ce qu'on peut leur dire, c'est qu'elles sont légitimes, qu'elles ont le droit de trouver de l'aide. Sur les attestations qu'on a par exemple pour avoir le droit de sortir de chez soi, il y a un motif qui est celui de sortir pour des raisons de santé. Nous ce qu'on aimerait, ce serait qu'il y ait des motifs justement qui soient prévus pour que les personnes qui vivent des violences conjugales aient le droit de sortir et le droit de trouver de l'aide. Vous avez le droit, les victimes, vous avez le droit vraiment de sortir, vous êtes en danger. Ce n'est pas parce qu'on a des consignes qu'il faut se sacrifier. Vous pouvez chercher de l'aide.
Oui, c'est vrai qu'on peut aller chercher de l'aide à l'extérieur. On peut éventuellement essayer d'envoyer des messages. Et toutes les associations font le même constat finalement. Hein. Je crois que c'est aussi votre cas chez France Victimes. Oui. Jérôme Bertin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur général de France Victimes. Hein. Réseau qui représente, je crois, 132 associations.
Oui, 132 associations agréées par le ministère de la Justice et qui œuvrent toute l'année pour toutes les victimes et qui reçoit à peu près 300 000 victimes chaque année. Je partage complètement les constats qui sont faits par les autres associations. Ce contexte du confinement, en fait, nous amène automatiquement à nous adapter, à ce que les professionnels s'adaptent et pour maintenir le lien malgré la distanciation qui est souhaitée, et aussi à une vigilance, une attention toute particulière. Je retiens également les propos de vos invités sur le fait qu'il appartient aussi à tous les tiers, les voisins, les familles, à signaler ce qu'elles pourraient constater.
Alors, vous nous disiez que, manifestement, vous aviez davantage de messages écrits que des appels en ce moment, dus justement à cette situation de confinement.
Alors, c'est lié à la fois à notre difficulté ponctuelle de ne pas pouvoir recevoir des appels directs. Nous incitons donc sur nos messages à ce que les appelants victimes laissent leurs coordonnées pour être rappelés dans la journée. Ça, c'est un engagement que nous avons pris, d'être rappelés immédiatement. Et nous incitons également à nous adresser des écrits. Et on s'aperçoit que dans les situations dont vous parlez dans votre émission depuis tout à l'heure, on s'aperçoit en fait que les écrits, notamment le mail, est un outil qui est finalement plus utilisé, peut-être plus facile à utiliser, peut-être parce que plus discret. Et nous avons pris l'engagement avec les autorités judiciaires avec qui nous sommes en lien quotidien, de signaler, de faire remonter toutes les situations, soit à la demande de la victime, soit si nous-mêmes nous décernons une urgence, un péril imminent pour qu'il y ait des interventions possibles au domicile.
Vous avez aussi publié une lettre Covid-19, virus de toutes les violences, parce que les messages écrits justement que vous recevez sont très nombreux et vous le confirmez.
Oui, nous avons fait, je vous dis, le même constat. Nous partageons cette vigilance de toutes les associations et toutes les autorités qui œuvrent dans ce domaine. La promiscuité engendre automatiquement un risque supplémentaire de violence, soit qu'elle préexistait, soit qu'elle se révèle à ce moment-là. La cellule familiale devient une prison, si on peut dire, et avec des victimes qui ont le sentiment qu'elles ne peuvent pas fuir. Et je réitère ce qui a été dit, mais en effet, la fuite est possible. Soit qu'ils n'ont pas de répit, aucun moment pour elles-mêmes, pour éventuellement agir. Et c'est bien là la difficulté aussi, c'est que les plaintes sont compliquées quand vous êtes confiné et qu'il n'y a peut-être pas forcément d'urgence. C'est pour ça qu'on incite beaucoup à ce qu'il y ait des écrits qui puissent être faits, des mails qui puissent nous être envoyés à victimes@france-victimes.fr. Par ailleurs, les associations locales qui ont des liens quotidien avec avec les victimes n'ont pas non plus rompu leurs activités, hein, même si tout le monde est en télétravail. Et il y a eu évidemment des rendez-vous qui se font maintenant à distance, en visio ou par téléphone, mais aussi une vigilance particulière sur les personnes les plus fragiles ou les public victime qui, par exemple, bénéficie d'un téléphone grave danger. Là, c'est l'association qui vient vers elle, qui ne rompt pas le lien et qui se soucie au quotidien de leur situation dans cette période de confinement.
Serge Effez est toujours avec nous, je voudrais lui donner la parole. Serge Effez, c'est vrai qu'on entend les associations faire ces appels, hein. On comprend l'urgence aussi de la situation. On n'oublie personne, évidemment, parce qu'il y a énormément de situations délicates à gérer. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais on le fera dans une autre émission, toutes les personnes qui sont en traitement et qui ne peuvent pas les en disposer, qui ne peuvent pas aller dans les suivis psychiatriques et psychologiques.
Absolument, oui. Il y a tout un dispositif de santé mentale qui est de très très bonne qualité en France. Partout, il y a un maillage du territoire avec des centres de jour, des centres médico-psychologiques, des centres d'accueil à temps partiel, etc. où les personnes qui sont déjà en difficulté ont l'habitude d'aller, de consulter, d'être occupées, d'avoir des activités, de rencontrer des professionnels. Tout ça est fermé. Il n'y a plus que le téléphone. Alors bon, le téléphone c'est précieux, mais enfin, ça n'est pas comme un contact humain, bien évidemment, qui est beaucoup plus rassurant. Ça c'est la première chose. La deuxième, alors. Toutes ces situations de violence qu'on entend, violence conjugale, violence à enfants, qui sont extrêmement préoccupantes, il faut voir également toutes ces situations qui sont, je dirais, en dessous du seuil de la violence avérée, mais qui sont des situations totalement explosives à l'heure actuelle. C'est-à-dire, c'est pas des situations pour lesquelles les femmes vont avoir envie d'avoir recours à la police ou à un numéro vert, mais c'est une tension et une violence quotidienne. Et c'est là où la prévention est extrêmement importante. Il faut vraiment inciter ces femmes, pour la plupart, des hommes aussi, dans certaines situations, dans un souci de prévention, de faire appel le plus tôt possible à tout ce maillage, à tous ces numéros qui existent, à tous ces lieux où ils peuvent un petit peu sortir de ce confinement relationnel conjugal explosif pour trouver des interlocuteurs.
Oui, vous faites bien de le signaler. J'ai un message justement de Samy sur Twitter qui me dit « Bonjour, n'oubliez pas de parler effectivement des violences psychologiques sur les enfants, conflits de loyauté, syndrome d'aliénation parentale. Elles sont tout autant exercées par les mères. Les violences parentales ne sont pas l'apanage des pères. » Voilà, c'est dit. Elisabeth, localement, il y a aussi énormément d'initiatives qui sont prises. Je pense à Lille, par exemple.
Oui, à Lille, l'association Solfa gère un accueil de jour et une centaine d'hébergements dans la région. Là, cette association, elle est sur le qui-vive. Cette association, c'est Solidarité Femmes Accueil, hein, Solfa, qui possède déjà 14 établissements dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Et elle aussi, elle précise qu'il n'est pas interdit de fuir pendant le confinement. C'est un message qui est constamment relayé par les associations, parce que cette association en particulier constate une baisse des appels depuis le début. C'est ce qu'elle a relayé dans les colonnes de la Voix du Nord hier après-midi. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ou au contraire ça reprend petit à petit?
Est-ce que vous souhaitez répondre?
La question s'adresse à qui?
Alors, je pense qu'elle s'adresse à vous, Jérôme Bertin, directeur général de France 20. Pardon.
Excusez-moi. Oui, en effet, c'est toute initiative est bonne à prendre. Et encore une fois, l'important, c'est de que les gens aient bien conscience que les liens ne sont pas coupés. Ils sont peut-être distanciés, peut-être qu'il n'est pas possible physiquement de se rencontrer, mais on peut toujours appeler notre numéro, le 116-06, ou nos collègues du 39-19, qui est le réseau Solidarité Femmes, pour signaler. Et j'incite également, encore une fois, les tiers à signaler aussi les situations dont ils peuvent être témoins. On oublie trop souvent que ces numéros sont aussi accessibles aux tiers. et également à toute situation qui peut exister dans au domicile. Nous craignons également, nous, dans les temps à venir, qu'il y ait peut-être d'autres situations type accident aussi à domicile. Il peut y avoir plus d'accidents domestiques également, parce que plus d'activités à domicile, plus d'accidents, peut-être plus d'escroqueries, plus de cybercriminalité. Et en effet... il y a des actions possibles. Les autorités policières et judiciaires ne sont pas fermées. J'entendais tout à l'heure, vous parliez de refus de plainte. Oui. C'est quelque chose qui, en effet, ne nous est pas remonté et de toute façon n'est pas possible. Donc nous trouverions...
C'est peut-être lié à l'effectif qui n'est pas forcément le même aussi en ce moment.
Il faut distinguer aussi ce qui est de l'ordre de l'urgent et d'un péril imminent et de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que, vous savez, dans le cadre des prescriptions, qui d'ailleurs sont en train d'être revues dans le cadre des lois et de cette période particulière, il y a des situations qui pourront faire l'objet d'une plainte dans un mois et ça ne sera pas plus compliqué et il n'y aura pas d'incidence sur les suites. En revanche, il faut se concentrer aujourd'hui sur les situations urgentes et en effet laisser à police secours la possibilité d'agir dans les cas les plus graves.
Vous restez évidemment avec nous, Jérôme Bertin. Je voudrais qu'on redonne la parole à Louise Delavier, qui est toujours en ligne avec nous, responsable du projet de chat de l'association En Avant Toutes. Finalement, on sent bien qu'il y a un mouvement général qui va dans le même sens, mais qu'il y a encore beaucoup de non-dits.
Oui, tout à fait. Nous, sur notre chat qui est disponible, je le rappelle, sur le site commentonsaime.fr, on voit que les personnes ont besoin de parler. Et c'est vrai que là où, quand on vit dans un 20 mètres carrés, ça peut être compliqué de prendre son téléphone pour se confier sur une situation qui est douloureuse, c'est plus facile de le faire par écrit peut-être. Et nous, nos répondantes, elles sont formées à ces questions depuis très longtemps, parce que l'écrit a déjà permis, même avant la crise du Covid, pour nous de traiter des situations de séquestration, de traiter des situations qui sont déjà de confinement. Et en fait, généralement, les auteurs de violence, ils ne s'attendent pas à ce que les victimes trouvent de l'aide par Internet et par l'écrit, et c'est ce que notre chat permet. Donc nous, on encourage les victimes, mais aussi les témoins, qui sont d'ailleurs très nombreux à venir nous contacter sur le chat pour parler du confinement, à ne pas hésiter à se confier, c'est vraiment fait pour elles et eux.
C'est vraiment, vraiment important ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. Je voudrais, Elisabeth, qu'on redonne aussi toutes les applis, tous les numéros qui sont à notre disposition.
Alors, le 119, je crois que évidemment, là on vient d'en parler. Il faut retenir un numéro, c'est le 119.
Pour les enfants, le 119.
Pour les enfants, exactement. Vous avez raison de le dire. Ou le numéro vert mis en place par le gouvernement, 0800 130 000. Vous avez aussi la voix de l'enfant, 01 56 96 03 00 ou encore l'enfant bleu, 01 56 56 62 62.
Et puis vous avez aussi Cogito, c'est ça, cogito.com, une hotline?
Oui, cogitose.com, c'est une hotline psychologique qui est gratuite en ce moment. C'est le 0805 82 28 10. Vous avez rendez-vous avec des psychologues qui peuvent vous écouter. Et chaque jour, il y a aussi un rendez-vous en direct entre 14h30 et 15h30 avec la fondatrice de Cogitose.
Merci Elisabeth pour toutes ces précisions. Merci à tous nos invités d'avoir joué le jeu et d'avoir été en direct avec nous pour alerter sur ces questions qui sont essentielles. Les maltraitances aux enfants, les violences intraconjugales pendant cette période de confinement. Merci à Serge Effez qui est resté de 13h à 14h et qui nous a apporté ses lumières. Roland Pérez, on le retrouvera évidemment à partir de demain avec les questions des auditeurs au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. C'est l'heure de retrouver Christophe Ondelat d'ici quelques secondes.